Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Charlie Dupiot.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. Aujourd'hui, nous faisons le point sur cette maladie gynécologique méconnue qui toucherait près d'une femme sur 10, provoquant des douleurs très intenses pendant les règles, une forte fatigue et même des troubles de la fertilité. Alors, quelles peuvent être les conséquences de l'endométriose sur la vie des femmes qui en souffrent? À partir de quel moment faut-il consulter quand on a mal pendant les règles? Et surtout, comment apaiser, comment calmer cette douleur? Avec nous pour aborder toutes ces questions et bien d'autres encore, notre invité, professeur Pierre-François Sekaldi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités au sein du service de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction à l'hôpital Foch à Suresnes, en banlieue parisienne. Merci d'être avec nous. Un peu plus tard dans cette émission, nous serons en ligne avec le docteur Ernestine Gouette-Belle, gynécologue obstétricienne et directrice de la polyclinique Odyssée à Douala. Elle nous en dira plus sur la prévalence de l'endométriose au Cameroun et sur les difficultés qu'on peut rencontrer avant d'obtenir le bon diagnostic. Alors si vous souffrez d'endométriose et que vous voulez témoigner, on vous attend au standard dès maintenant. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75, 33 1 84 22 75 75. Et à la fin de cette émission, on parlera d'une expérimentation française pour le suivi médical d'enfants placés en foyer ou en famille d'accueil, des enfants qui ont souvent vécu des traumatismes. Avec ce programme, il bénéficie notamment de soins psychiques précoces. On en parlera tout à l'heure.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Pierre-François Sekaldi, une première question simple mais importante. De quoi parle-t-on quand on parle d'endométriose ?
On parle d'une maladie qui devient chronique, qui touche malheureusement 10% des femmes en âge de procréer, qui était jusqu'à peu enseigné à la faculté. Et on parle aussi de quelque chose qui va les toucher au quotidien dans leur sphère professionnelle et aussi dans leur sphère privée.
Alors, cette maladie se caractérise par la présence de fragments de muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre, hors de l'utérus.
Oui, entre autres. Alors, aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a trois hypothèses en fait, de cette maladie, trois façons. La première, c'est ce que vous, en effet, vous précisiez, c'est ce reflux menstruel au travers des trompes avec ces petites cellules de l'endomètre de l'intérieur de l'utérus qui viendraient se greffer dans le ventre et se localiser un peu n'importe où, aussi bien sur les intestins qu'au niveau du ventre. La deuxième hypothèse, c'est des petites cellules qui, elles, restent sommeil depuis notre formation in utero dans le ventre de notre mère et qui viennent à se manifester, on ne sait pas pourquoi, quelques années plus tard, après la puberté. Et la troisième hypothèse, c'est la transformation de cellules localement qui viendraient se transformer en cellules endométriales, ces cellules dont on parle au niveau de l'endomètre de l'intérieur de l'utérus.
Alors, on a parlé des douleurs pendant les règles. Quels sont les autres symptômes les plus fréquents?
Alors, les symptômes, et d'abord, on dit une endométriose, mais probablement qu'il y a une pluralité des symptômes suivant leur localisation. On a des localisations un peu historiques, des localisations par exemple diaphragmatiques, pulmonaires, c'est rarissime, mais on en a quelques-unes à l'hôpital Foch qu'on prend en charge. Mais aussi après, on a des localisations plus fréquentes au quotidien qui peuvent être bien sûr les douleurs menstruelles dont on parle, mais aussi des localisations urinaires, des localisations digestives avec des patientes qui peuvent avoir en effet du sang dans les selles, des douleurs importantes au moment des règles et dans les jours qui suivent la fin des règles avec toutes ces manifestations-là.
Alors, c'est une maladie dont on parle de plus en plus en France et ailleurs, avec des témoignages de femmes qui évoquent leurs douleurs. Il y a des livres, des bandes dessinées sur le sujet. Mais jusque-là, cette maladie était plutôt méconnue du grand public. Comment l'expliquer ?
Méconnue, parce que déjà, comme je précisais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas une cause aussi évidente que ça, puisque le reflux menstruel, pourquoi 90% des patientes peuvent avoir un reflux, seulement 10% avoir des manifestations d'endométriose. La deuxième chose, c'est qu'aussi, il y avait un défaut d'organisation d'organisation au niveau de la prise en charge des soins. Et aujourd'hui, l'information aussi manquait. Et là-dessus, aujourd'hui, que ce soit de l'organisation des systèmes de santé ou aussi l'échange entre les patientes qui est très importante. On a des patientes expertes pour ça, des associations de patientes. Et donc aujourd'hui, la diffusion aussi se fait à l'échelle de la population et du grand public.
Et l'information manquait aussi au sein du personnel médical ?
Oui, complètement. Vous avez tout à fait raison de le préciser aujourd'hui. C'est quelque chose qui est, comme je vous disais tout à l'heure, peu enseigné à la faculté, pas qu'en médecine, mais aussi dans les soins au sens large hein, là-dessus. Et donc, comme c'est peu enseigné, bah, la prise en charge, hein, pareil, peut être jusqu'à 7 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic de la maladie en tant que telle.
Donc c'est vraiment une errance, hein, diagnostique.
Complètement.
Donc c'est une maladie qui pourtant touche 190 millions de personnes dans le monde. On l'a dit, 10% des femmes en âge de procréer. On va donner la parole à une première auditrice, Myriam. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Myriam. Vous, vous êtes à Libreville au Gabon. Vous avez 50 ans et donc vous souffrez d'endométriose avec des règles, je crois, très douloureuses.
Oui, oui, oui.
Alors,
en fait,
oui, on vous écoute.
Oui, en fait, moi, depuis l'âge de 13 ans, 12 ans et demi, quoi, j'ai eu mes règles hein, très tôt dans la vie. Hein. Et je crois qu'à partir de 15 ans, c'est là où j'ai commencé à avoir vraiment des douleurs très fortes au niveau du ventre. Et puis après, ça s'est accentué. Et j'ai subi certaines opérations à cause d'un kyste qui s'était développé. Et puis après une deuxième, après une troisième, et puis après ça termine comme ça. Et j'ai toujours vécu avec des douleurs inflammatoires, je dors avec des médicaments, à chaque fois que je les ai, j'appréhende de les avoir, j'ai très mal au ventre. Bon, en fait, c'est le quotidien, en fait, c'est ça. À chaque fois qu'on a ces règles, on a mal au ventre. On n'a pas envie de manger, toutes les 4 heures, il faut prendre des comprimés pour se sentir un peu mieux.
Des antidouleurs.
Un peu ça. Voilà, des anti-inflammatoires. J'avais un premier médicament que je prenais avant, quand j'étais toute petite, je crois que c'était le Ponstil, qu'un médecin m'avait prescrit. Parce qu'une fois, mes règles avaient fait peut-être 2-3 semaines. Hein. Donc, ça avait mis du temps. Mais comme on me disait, vous êtes jeune, vous avez 15 ans. Mais bon, après, les conséquences qui sont venues après, c'était tout autre. J'ai toujours eu des douleurs. J'ai essayé un peu tout, voir des médecins, un peu de travail du praticien aussi. En fait, c'est pas facile à vivre. C'est invivable, par contre, dès qu'on est dans cette période-là. C'est vraiment invivable.
Oui, c'est une période que vous redoutez, en fait, hein, l'approche
oui,
des règles.
Oui, beaucoup. En fait, vraiment, je ne souhaite pas que certaines jeunes filles, pour moi, c'est vraiment ça, passer le mot et dire, je ne souhaite pas vraiment que cette jeune fille puisse souffrir de ça. Parce que tu ne vis pas, tu n'as pas envie de manger, tu penses que quand tu les auras, il faut prendre des comprimés. En fait, tu es souvent un peu dans ton coin.
Et ces douleurs, Myriam, elles durent combien de temps ? Donc le temps des règles,
en fait,
quelques jours ?
Elles peuvent venir avant. Vous pouvez sentir, mais pas aussi fortes que quand vous les avez. Et puis vous avez des règles abondantes aussi parfois, parce que vous avez besoin de garder certaines serviettes hygiéniques, au cas où même vous gardez même des paquets, parce qu'avant ce n'était pas comme aujourd'hui, on avait des serviettes un peu XL de grande taille. Avant c'était des petites serviettes. Donc même quand tu vas à l'école, parfois tu passes le temps à l'infirmerie, mais les douleurs c'est avant et puis pendant, c'est là où elles deviennent très 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 fortes. Vous avez des sueurs froides comme si vous avez fait du sport, des très grandes crampes au niveau du ventre, des fois vous n'arrivez pas à marcher, vous avez mal aux pieds, vous avez envie de vomir. En fait, on a juste envie de dormir, de prendre des cachets et puis après de se réveiller. C'est ce dont on a envie.
Et on parlait, Myriam, on parlait de diagnostic tout à l'heure. Vous aviez la trentaine hein, quand on vous a diagnostiqué l'endométriose. Comment vous en êtes arrivée à ce diagnostic-là ?
Mais en fait, moi, comme je souffrais tout le temps, à un moment donné, j'ai vu plusieurs gynécos. Et en allant voir un, il m'avait bien fait comprendre que, mais en fait, que moi, je suis parmi certaines femmes. On me dit parmi 10 femmes, vous êtes parmi les... Sur 100 femmes, vous êtes les 10, parmi les 10 femmes qui ont cette maladie. C'est une maladie. Mais sans pour autant aussi mettre le nom endométriose, parce que je pense que c'est même le nom-là est venu quelques mois après, parce qu'après, on essaie de se documenter, de comprendre un peu les choses. Et après, le nom endométriose vraiment est venu sur la maladie.
Et jusque-là, vous pensiez que c'était les règles, que c'était normal d'avoir aussi mal, que ce n'était pas forcément une maladie ?
Voilà, parce que depuis petite, parce que tout le monde, toutes les femmes ont ces douleurs-là, on s'est dit que bon, parce que nous sommes des femmes, comme nous devons avoir des règles, Mais nous avons mal. Parce qu'une femme, on se dit, quand une femme est l'enfant, elle a mal. Et donc, les douleurs, ça fait partie de la vie des femmes. Des fois, on se dit que c'est toutes les femmes qui les ont. Mais en fait, ce n'est pas toutes les femmes. Parce que quand j'ai vu le médecin, il m'a dit non, vous, ce n'est pas toutes les femmes. Il m'a bien précisé, vous ne pensez pas qu'avoir les règles, c'est souffrir. Si vous avez les règles dès lors que vous souffrez, c'est plus ça, c'est autre chose. Mmh. Et là, dès qu'il m'a dit ça, j'ai compris que, ah, voilà, donc...
Il y avait une explication, chose, mais... en fait.
Mmh. Voilà.
Et vous avez subi, vous l'avez dit, hein, plusieurs opérations, car vous aviez des kystes au niveau de l'utérus, c'est ça?
J'ai eu un kyste à l'ovaire.
À l'ovaire.
Premier, à l'âge de 26, 27, j'ai eu un premier kyste à l'ovaire qui s'est vraiment qui a infecté presque tout mon... Donc ça ne s'est pas bien passé. On a dû me réopérer une deuxième fois. Et après, je crois, quelques années après, je me suis encore fait réopérer parce qu'il y avait, pour la troisième fois, j'avais eu plusieurs fibromes dans mon ventre encore qui ont surgi.
Et pour la prise en charge de la douleur, donc vous prenez des anti-inflammatoires, vous prenez des antidouleurs, vous avez aussi eu une pilule qu'on vous a prescrite?
Voilà, quand je suis allée voir le médecin, là, quand j'étais un peu, je souffrais beaucoup, je lui ai dit, je souffre tellement, j'en ai marre de souffrir. Il m'a dit, bon, moi, ce que je peux vous faire, c'est que vous prescrire une pilule pour qu'au moins vous stoppez les règles, pour que vous vous sentez mieux, vous vous reposez. J'ai dit, moi, je lui ai dit, moi, je veux me reposer, je suis fatiguée. Et c'est là où il m'a prescrit la pilule. Mais malgré ça, il m'a prescrit ça un an. Moi, j'ai débordé parce que je voulais vraiment rester tranquille. C'est vrai, j'avais plus mes règles. Mais même après les un an, je peux dire même 2 ans quand je les ai arrêtés, 1 mois, 2 mois, après, les douleurs sont revenues comme elles étaient. Hein.
Et vous avez choisi d'arrêter la pilule pour quelle raison?
Et parce que je me suis dit, je suis une femme. S'il arrive que je puisse enfanter, je ne pense pas que ce soit bien. Peut-être que je vais créer quelque chose d'autre dans mon ventre.
Vous aviez peur que ça cause peut-être des troubles de la fertilité par la suite?
Voilà, j'avais peur de ça. Parce que lui, il ne m'avait vraiment pas dit de prendre autant de temps. Hein. Il m'avait dit, peut-être c'était pour quelques mois, mais moi, j'ai débordé. Hein.
Ouais. Alors, professeur Pierre-François Sécaldi, je me tourne vers vous. Est-ce que vous voulez réagir peut-être à ce que nous raconte Myriam de son parcours fait de souffrance hein, liée à l'endométriose?
Bien sûr. D'abord, merci d'avoir pris de votre temps pour le signifier en direct dans cette journée mondiale de l'endométriose. Deuxièmement, ce que vous décrivez, malheureusement, ça touche des milliers, des millions de femmes hein, à l'échelle mondiale. Ce parcours à la fois, comme vous le décrivez très bien, des premières règles qui arrivent, puis après l'isolement du fait de la douleur, l'isolement social hein, qui est important, le questionnement qu'on a en soi, questionnement vis-à-vis aussi du quotidien, mais aussi au moment où on a un projet de grossesse. Hein. Et puis, voilà. Et puis les interventions. Alors le kyste aux ovaires sur l'endométriose s'appelle un endométriome. Et c'est vrai qu'actuellement, aujourd'hui, on se pose des questions sur faut-il y toucher ou pas, puisque dès qu'on touche un ovaire, on touche aussi sur la fertilité potentiellement des femmes. Et donc à l'heure maintenant de la médecine personnalisée, je vous dirais que chaque traitement doit être potentiellement adapté au parcours que l'on voit de la patiente qui vient nous solliciter, qui vient pour les douleurs menstruelles et leur retentissement sur le quotidien, de qui vient aussi pour un projet de grossesse, où des fois ça nécessite un timing, une adéquation entre le projet en effet d'enfanter et le projet à côté du quotidien, où les réponses sont différentes, puisque comme madame l'a très bien précisé aussi, la contraception orale est un traitement de fond, le traitement des symptômes nésantalgiques, et puis qu'on se pose la question de l'enfant aussi à un moment donné, bah là, on doit arrêter cette contraception, et c'est là où aujourd'hui on doit faire un suivi au plus près.
Est-ce qu'il y a un lien entre les kystes que cette patiente, que Myriam a pu avoir, et l'endométriose?
Alors oui, il peut y avoir des localisations tout à fait de l'endométriose sur les ovaires, ça s'appelle des endométriomes, donc voilà, et ils peuvent gêner en effet pour avoir cette période d'ovulation et cette gêne sur la fertilité, puisque ça crée une inflammation au niveau local.
Myriam, quelles conséquences vous diriez que cette maladie a eu sur votre vie personnelle, professionnelle?
Déjà sur le plan professionnel, je vois que j'ai travaillé au moins dans 4 ou 5 entreprises. Dans 3 de ces entreprises, j'ai dû arrêter de travailler, j'ai démissionné. J'étais un très bon élément avec les regrets des patrons, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus. J'étais obligée de dire les vérités parce qu'à un moment donné, quand on te donne plus de responsabilités, tu dis, ben là, vraiment, je ne peux pas. Si je me réveille et que je n'arrive pas à aller travailler, assumer ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, j'ai souvent démissionné pour me calmer, me reposer aussi.
Parce qu'il y avait des jours où c'était trop dur d'aller travailler à cause des douleurs.
Voilà, parce qu'il y a des jours, c'était trop dur, ou même pendant le boulot sur place. Vous avez la douleur qui est là, vous vous mettez de côté dans un coin pour ne pas que quelqu'un vous voie dans une pièce ou dans les vestiaires, mais vous souffrez tellement. Déjà, par rapport au métier qu'on fait, s'il faut retourner 1 heure après travailler, tu ne peux pas retourner 1 heure après travailler, donc tu fais comment? C'est comme si tu ne travaillais plus.
Et aujourd'hui, vous travaillez?
Aujourd'hui, en fait, je suis à mon propre compte. Je préfère
Ah oui,
terminer comme ça.
vous travaillez chez vous comme je crois un certain nombre de femmes qui souffrent d'endométriose. Professeur Pierre-François Secaldi.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, une adaptation hein, du quotidien du travail aussi. On s'organise autour de la maladie, voilà, sur le quotidien, oui, tout à fait.
Et on entend donc les conséquences désastreuses que cette maladie peut avoir sur tout le reste de la vie.
Oui, c'est ce que précisait Madame à l'instant, cet isolement, ce questionnement qu'on peut avoir, et puis à côté aussi cet accompagnement qui aujourd'hui est finalement un peu le progrès, l'accompagnement médical au sens large, hein, là-dessus, sur les soins au quotidien.
Et qui peut soulager. Merci, merci beaucoup Myriam pour votre témoignage. Un grand merci de nous avoir partagé votre parcours. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'endométriose, nous parlons de cette maladie gynécologique qui touche donc de nombreuses femmes et peut être, on l'a entendu à l'instant, invalidante. Pourquoi faut-il poser un diagnostic tôt sur cette maladie? Comment se soigner? On continue d'en parler dans Priorité Santé, mais d'abord, Is It You? C'est signé CK. On se retrouve dans un instant.
Spend my money, I spend my time. I need sexy, interesting, benefits in the ocean. For me, I want that one. Personal, carry my kill the show. China whiskey, the call. Carry my money and go. So long. When I met you, I reached my last bus stop. Last bus stop. Oh, I need sexy, interesting, many fish in the ocean. For me, I want that one. Personal, carry my kill the show. China is pretty cold. Carry my money and go.
Règles douloureuses, crampes dans le bas-ventre, vomissements, fatigue, tous ces symptômes peuvent être ceux de l'endométriose, une maladie gynécologique qui touche 1 femme sur 10 en âge de procréer, avec des formes différentes. Alors on en parle aujourd'hui dans Priorité Santé avec notre invité, le professeur Pierre-François Secaldi, médecin universitaire au sein du service de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction à l'hôpital Foch à Suresnes. Alors professeur Pierre-François Secaldi, qu'est-ce qui peut provoquer l'endométriose? Qu'est-ce qu'on sait des causes de cette maladie?
Alors aujourd'hui, d'où les difficultés aussi d'enseignement à la faculté, c'est qu'on a 3 hypothèses diagnostiques aujourd'hui comme cause On a le reflux menstruel, ces petites cellules de l'endomètre qui viendraient à retraverser par les trompes, refluer et se greffer un peu partout dans la cavité abdominale, dans le ventre. On a parlé à l'instant avec une patiente des endométriomes, cette localisation sur les ovaires qui est tout à fait possible et qui peuvent jouer aussi sur la fertilité. Mais on peut aussi avoir, et c'est la conséquence des symptômes, une localisation au niveau digestif, une greffe de ces petites cellules sur les intestins avec des douleurs, voire du sang dans les selles ou au niveau urinaire, des envies plus fréquentes d'aller uriner. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, ce serait des cellules qui se mettent en sommeil, qui seraient au stade embryonnaire, au moment de notre formation, notre conception, et qui viendraient à se réveiller au moment de la puberté, et donc à faire mal, puisqu'elles réagissent aux hormones, au cycle menstruel, et donc elles viendraient à faire mal. Et la troisième possibilité serait en effet des cellules qui viennent à se transformer au sein de l'abdomen, du ventre et tout ça, et qui viennent à se transformer en cellules endométriales, et donc qui viendraient là aussi répondre et réagir au cycle menstruel de la femme.
Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques dans cette maladie ?
Il y a, alors bien sûr on ne s'explique pas tout aujourd'hui, mais on a des familles malheureusement de femmes endométriosiques. Et donc il y a des hypothèses aussi en effet là-dessus, de génétique, mais assez complexes.
Ouais. Mais ça reste encore à explorer. Alors on va joindre tout de suite l'une de vos consoeurs, le docteur Ernestine Gouette-Bell, gynécologue obstétricienne à Douala au Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Bonjour docteur Ernestine Gouette-Bell.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Alors, est-ce qu'on connaît la prévalence de l'endométriose au Cameroun ?
Oui, c'est pratiquement comme l'a dit le professeur Fekaldi, c'est 10 à 12 % des personnes qui souffrent d'infertilité. C'est 10 % de la population, les femmes qui sont atteintes de l'endométriose.
Et on parle de méconnaissance de cette maladie. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez le sentiment que cette maladie est aussi méconnue des patientes et puis des professionnels de santé ?
Oui, c'est clairement cela. Les patientes ne connaissent pas cette maladie. La plupart ne viennent pas en consultation parce qu'elles soupçonnent d'avoir l'endométriose. Elles viennent tardivement parce qu'elles veulent avoir les enfants et que ces enfants n'arrivent pas, ou alors parce qu'elles ont des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs pendant les règles, et toutes sortes de douleurs. Et bon, c'est la plus 40% vont découvrir le nom de cette maladie en consultation.
Professeur Pierre-François Sekaldi, ce diagnostic peut avoir lieu, quand les femmes souffrent de troubles de la fertilité. C'est aussi ça qui peut les amener à consulter et donc à se faire diagnostiquer une endométriose ?
Oui, tout à fait, parce que la pluralité des symptômes fait que oui, on peut avoir un fond douloureux, mais de là à consulter, comme le précisait ma collègue, en effet, là-dessus, c'est pas toujours automatique, et on se retrouve avec 30% en cause de difficultés à concevoir qui sont de cause endométriosique, en effet.
Docteur Ernestine Gouette-Bell, comment vous menez le diagnostic ? Comment se fait ce diagnostic ?
Ben, c'est par l'interrogation. On interroge les femmes, on découvre qu'elles ont des règles douloureuses depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, et qu'elles ne se sont pas pleines parce que c'est naturel d'avoir des douleurs quand on a des règles. Ensuite, quand elles ont un désir de maternité, on fait des examens, on fait des échographies, ça peut aller jusqu'à l'IRM ou les radios des trompes. Et là, nous, on va découvrir l'endométriose, on va leur expliquer ce que c'est et les façons de traiter cela. Et on va toujours insister pour les possibilités de diminuer leur maternité, leur fertilité. Et là, pour celles qui désirent faire les enfants, bon, on va les accompagner. Pour celles qui ne désirent pas, on leur explique qu'il faudrait vraiment qu'elles y pensent rapidement avant que les choses ne deviennent graves.
Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est possible d'avoir des enfants, même si on souffre d'endométriose.
Oui, bien sûr. Puisque, si vous voulez, une étude que nous avons faite au niveau de l'Afrique montre que seulement 30% des femmes atteintes d'endométriose qui ne pourront pas avoir les enfants.
Oui, donc ça reste impossible. Alors, professeur Pierre-François Sekel dit, on a parlé donc d'échographie endovaginale, hein, d'IRM, imagerie par résonance magnétique. Et puis, il y a aussi depuis peu un nouveau test salivaire, endotest, qui vient d'être validé scientifiquement en France, hein, par la Haute Autorité de Santé. Donc, grâce à un prélèvement de salive, on peut diagnostiquer l'endométriose ?
Alors, aujourd'hui, le standard reste quand même l'imagerie. Hein, comme le rappelait ma collègue à l'instant, un interrogatoire suivi d'une imagerie, voire des fois dans les rares cas une célioscopie, hein, d'aller voir avec une microchirurgie ce qui se passe en localisation dans l'utérus.
Et on peut voir des lésions notamment.
Oui, voilà, tout à fait, des lésions actives ou des lésions un peu plus anciennes et les conséquences de ces dernières sur les différents organes. Et le test salivaire vient en complément. Et aujourd'hui, là, en effet, il est en cours de test, en fait, d'évaluation, puisque pour savoir s'il y a un processus ou non de remboursement à avoir. Et donc, aujourd'hui, on rentre dans cette période d'évaluation, de voir à quelle est sa potentialité, son intérêt, avant de le diffuser largement. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut être clair, c'est l'imagerie qui nous permet aussi de savoir où sont localisées les lésions et quel type de lésions, malheureusement, à la patiente.
Alors justement, on avait une question d'une auditrice à ce sujet, Aurore Allomé, qui nous demande comment rendre disponible le diagnostic par test salivaire aux patientes en Afrique. Donc la réponse, c'est qu'il faut peut-être déjà attendre un moment de test et d'études, mais ça pourrait arriver. Alors je vous lis d'autres questions à tous les deux, hein, qui nous parviennent sur Facebook, celle notamment de Laure à Abidjan. Elle nous écrit, après un traitement lié à un cancer du sein, mon médecin a insisté sur la surveillance de mon utérus pour s'assurer que je ne fasse pas d'endométriose. L'endométriose peut-elle se déclarer après la ménopause ? Alors, je me tourne vers vous, docteur Ernestine Gouedbel.
Oui, a priori, la ménopause est un traitement d'endométriose, c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand la ménopause arrive, la femme n'a plus de règles, donc supposément, elle ne devrait plus en souffrir. Mais il faut savoir que la ménopause n'est pas le même âge pour toutes les femmes. Il y en a qui auront la ménopause à 50 ans, d'autres à 45, d'autres à 60 ans. Donc, c'est assez relatif. Mais de façon courante, 95% des signes d'endométriose vont disparaître avec la ménopause.
Donc, l'endométriose peut se déclarer après la ménopause, mais c'est plutôt rare.
Alors, c'est comme en effet, comme vous le rappeliez à l'instant, c'est une maladie hormonale dépendante. Et donc, la ménopause, c'est une absence de règles pendant un an. C'est une définition clinique. Et c'est le retrait de des fabrications de ces hormones par les ovaires. Donc, on considère qu'il y a une potentialité, en effet, de mise au repos, entre guillemets, de ces symptômes. Il n'empêche que les patientes peuvent garder des séquelles de localisation des endométrioses et donc peuvent avoir, pour quelques-unes encore, des douleurs séquellaires. Mais en général, les choses font comme il y a moins d'hormones qui circulent dans le corps. On croise les doigts en tout cas pour que ça puisse se calmer en effet avec le temps.
Alors je vous lis le message d'une autre auditrice, Sandrine, qui est au Niger. Elle nous rapporte la situation d'une amie très proche qui souffre d'endométriose et Sandrine nous écrit « Mon amie a des douleurs mais l'intensité est supportable. Par contre, quand elle a des rapports sexuels, elle ne ressent pas de douleur sur le moment mais durant la journée qui suit, elle a de terribles douleurs au niveau du dos et du bas-ventre. Qu'est-ce qui explique cela ?» Alors, c'est vrai qu'on n'en a encore pas parlé. Hein. Avec l'endométriose, on peut ressentir des douleurs, professeur Pierre-François Sekaldi, au moment des rapports sexuels ou après ?
Oui, en fait, il peut y avoir, on parlait de cette localisation de la maladie, elle peut en effet toucher les organes des environs et puis aussi les ligaments utérosacrés, c'est ces ligaments qui viennent à raccrocher l'utérus au reste du bas-ventre et on peut avoir des localisations en effet et ces douleurs, ces symptômes que décrivent très bien les patientes qui malheureusement sont au moment des rapports sexuels.
Docteur Ernestine Gouedbel, quelle prise en charge vous proposez à vos patientes qui souffrent d'endométriose ?
Alors, ça dépend un peu de la situation de la femme et de leur demande. Pour celles qui n'ont pas envie de faire des enfants, on va leur proposer la pilule pour bloquer les règles. Moi, les endométrioses sont très importantes. Quand l'adénomyose est très importante et l'endométriose, on peut proposer des injections qu'on appelle des décapeptiles, par exemple, qui vont bloquer les règles pendant plusieurs mois. Ça peut aller de 3 à 9 mois. Mais c'est vraiment les femmes en ce moment-là qui ne souhaitent pas avoir les enfants ou bien qui ont des kystes ou qui ont des lésions qu'on espère faire sécher. Le deuxième traitement, ça va être la chirurgie. La chirurgie, le professeur l'a dit tout à l'heure, c'est souvent la stéréoscopie. En tenant bien compte qu'il peut être très, très limite, il ne faut pas enlever tout, il ne faut pas traiter des gros kystes par la résection, puisque ce traitement de chirurgie-là a tendance à diminuer la fertilité de la jeune femme. Donc, ce sont des traitements souvent mélangés. On commence par la pilule, par les calmants, suivi la chirurgie. Mmh. Et pour celles qui veulent faire les enfants, et on va souvent assez rapidement vers la fécondation in vitro.
Et donc, on l'a compris, il n'existe pas de solution curative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter définitivement la maladie. Alors, à quoi ça sert, et je vous pose la question à tous les deux, de poser un diagnostic, finalement, s'il n'y a pas de traitement possible ?
Bah, c'est déjà toujours bien de savoir ce dont on souffre. Et je pense que d'avoir les mots, déjà de poser les mots en tant que tel, une de nos patientes rappelait à l'instant dans son témoignage, quand on a, au bout de 7 ans, 10 ans et plus, enfin un mot, déjà, on sait qui est en face de nous, ce qu'on a dans notre organisme qui nous fait mal. La deuxième chose aujourd'hui, comme le rappelait à l'instant aussi ma collègue, c'est qu'on rentre à l'ère aussi du traitement personnalisé. Alors, traitement des symptômes et traitement antalgique, mais aussi traitement de la cause. Et sur la cause aujourd'hui, le challenge est de savoir, en effet, sur la place de la fertilité, au moment où on a cette maladie qui s'installe de façon chronique, quand est-ce qu'on peut, on va avoir les enfants, comment on s'organise en conséquence et avec quelle équipe, en effet, de soins autour.
Docteur Ernestine Guedbel, quel dernier message vous aimeriez faire passer, vous, sur ce sujet-là de l'endométriose ?
J'aimerais parler surtout aux jeunes femmes, qu'elles ne minimisent pas les douleurs. Les douleurs qu'elles ont depuis la jeunesse parce que la femme doit avoir mal, qu'elles fassent les examens rapidement, qui sont les examens qui vont être simples, l'échographie surtout, et éventuellement une IRM, et qu'elles aident les médecins en laissant la possibilité de faire des diagnostics précoces. À mon avis, cela limitera les complications, et parmi ces complications, il y a l'infertilité.
Et donc, ne pas penser que les douleurs liées aux règles sont une fatalité. Merci, merci à vous, docteur Ernestine Guedbel, pour votre éclairage. On va rester au Cameroun. On va donner la parole à une auditrice tout de suite.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Bonjour Ashley.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à Yaoundé, vous avez 33 ans et vous ressentez de fortes douleurs pendant vos règles.
Oui, c'est le cas.
Depuis combien de temps ?
Ça remonte à plus de 5 ans déjà, parce que ça remonte à pratiquement 2015 quand je commence à avoir des premiers évanouissements. Et on me dit que c'est plutôt des règles douloureuses, mais c'est en 2020 par là. Que le premier gynécologue m'a diagnostiqué que c'était possible. Moi, je me suis dit, c'est possible que ce soit une endométriose parce que les examens n'avaient pas encore été faits. Donc, ils n'avaient pas pu avoir les résultats. Mais vu les explications et tout ce que je lui ai dit, ressenti, comment ça se passait, j'avais d'énormes douleurs au bas ventre, que ce soit pendant les rapports ou après les rapports, pendant que je saigne également les douleurs et je saignais abondamment. C'est abondamment, les 3-4 premiers jours, c'était toujours énorme. C'est à partir du 5e jour, parfois, que ça commençait un peu à réduire.
Et en parallèle de ça, je crois que vous vouliez tomber enceinte.
Oui, effectivement. Effectivement, depuis déjà pratiquement 2 ans, 3 ans, j'avais essayé. Entre autres, je n'arrivais pas. C'est donc là que, quand on me parle du gynécologue, ici, je vais vers lui. Et après des examens et tout ça, quand il me dit il va faire tel examen, après son premier diagnostic, il me dit ok, il faut faire des examens. Par la suite, 2 mois, pratiquement 1 mois par là, je me rends compte que je suis enceinte. Bon, après 2 ans d'essai, je suis tombée enceinte comme ça. Par la suite, j'ai conçu normalement, j'ai fait mes 5-6 mois, il me suivait, mais malheureusement, au 6e mois, c'est vrai que j'avais des douleurs souvent bizarres, je comprenais pas. Et il me disait toujours non, ça va, tout va bien. Il y a un kyste, il y a aussi ça, mais l'enfant va bien, tout ira à bout et tout, tout. Mais au 6e mois, comme ça, du jour au lendemain, j'ai passé une journée, je me rendais compte que l'enfant ne bougeait plus dedans. Alors, je vais à l'hôpital et on m'annonce désolé, l'enfant est décédé dans le ventre, c'est tout ce qui va avec.
Alors, on vous entend un petit peu mal. Je suis désolée, Ashley, mais donc vous nous racontez une fausse couche hein, que vous avez faite à 6 mois de grossesse. Et à ce moment-là, votre médecin a choisi d'opérer, hein, c'est ça, hein, le kyste que vous aviez.
Oui, par la suite, on m'a fait plutôt une opération parce qu'il m'a dit que c'est mieux pour... Là, ça nous permet de retirer également le kyste qui était déjà en train de grossir à l'intérieur. Et apparemment, il y avait aussi un abcès abdominal à l'intérieur. Voilà les deux situations que j'avais. On a opéré, on a retiré les abcès, on a retiré l'abcès, on a retiré le kyste et également le bébé puisqu'il était déjà décédé. Donc, de là, avec ce traumatisme 2021, parce que ça s'est passé en 2021 et à ce jour... Je ne sais pas, j'arrive vraiment pas. Il m'a dit, il ne sait pas. Personne n'a réussi à me donner une explication. Qu'est-ce qui a bien pu causer le décès du bébé, puisque tout allait bien jusqu'à 6 mois.
Oui. Et vous n'êtes pas retombée enceinte depuis Ashley, hein, c'est ça?
Non.
Vous avez des questions, je crois, pour notre invité au sujet de votre parcours.
Oui.
Alors, on vous écoute.
Alors, docteur, j'aimerais savoir, est-ce que... L'endométriose était risquée pour une grossesse parce que vu ce que j'ai vécu, à nos jours, je ne sais pas, est-ce que c'est le kyste, est-ce que c'est l'endométriose qui a causé le décès de mon enfant? Et par la suite, ça me fait énormément peur. J'arrive plus à concevoir parce que je me dis, est-ce que la même chose va se reproduire? Comment savoir que ce n'est pas si c'est l'endométriose et quelles sont les précautions que je peux bien prendre par rapport à tout ça?
Merci Ashley pour ces questions, professeur Pierre-François Sekaldi.
Tout d'abord, merci hein, pour ce témoignage hein, sur la fertilité et les difficultés, en effet, à la fois de concevoir et puis après de poursuivre la grossesse. Ce qu'on sait à peu près, nous, alors à l'échelle sur l'étude française, c'est qu'on augmente le risque de fausse couche spontanée, c'est-à-dire au premier trimestre, de 10% par rapport à une patiente au standard. Voilà. Sur les fausses couches un peu plus tardives dont précisait madame de 6 mois, c'est difficile de dire parce qu'on n'a pas véritablement d'études. Et puis c'est parce qu'il y a d'autres causes qui peuvent se surajouter, les causes infectieuses, les causes, le col vient à s'ouvrir plus vite et trop tôt. Et donc difficile d'associer sur les termes plus avancés l'endométriose, voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que l'endométriose est une inflammation, qu'elle peut donner des irritations dans le ventre et donc donner des contractions utérines.
Et donc, c'est peut-être possible hein, pour Ashley de continuer à consulter son gynécologue pour envisager une autre grossesse.
Alors, dans un deuxième temps, en effet, ce que vous dites tout à fait là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a madame est porteuse d'une endométriose. On sait malheureusement qu'il y a eu un premier vécu qui s'est terminé de façon dramatique. Et donc, le plus simple, en effet, aujourd'hui, est de continuer à se faire suivre et de voir quelle est la prise en charge au niveau de la fertilité. Et au bout de combien de temps de tentatives, de combien de mois ou d'années de tentatives, on peut éventuellement évoquer la prise en charge médicale d'une procréation médicalement assistée.
Merci en tout cas, Ashley, pour votre témoignage. Et puis, bon courage à vous pour la suite. On va retrouver tout de suite une dernière auditrice, Sandrine, à Villemomble, en région parisienne. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Sandrine. Vous avez 46 ans et vous aussi, hein, vous avez toujours eu des règles très douloureuses et même des vertiges.
Oui, alors effectivement, moi j'ai été diagnostiquée en 2014, donc un diagnostic tardif, puisque j'avais déjà 36 ans. Mais dans mon souvenir, dès le collège, parce que moi j'ai eu mes règles à 12 ans, dès le collège, je vomissais, je tombais dans les pommes, j'avais des hémorragies, enfin des règles très très abondantes. Et puis en 2014, je suis tombée dans les pommes et donc là on m'a diagnostiqué avec une endométriose avec une atteinte digestive, donc en stade 4 sur 5. Ce qui m'a valu 2 opérations avec une partie de l'intestin qui a été coupée. J'ai été alitée pendant un certain temps. J'ai eu des sondes urinaires. Dans mon malheur, j'ai pu avoir un enfant juste avant 2011. Ça n'a pas du tout atteint ma fertilité. Et donc moi, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, moi j'ai un petit peu tout connu parce que j'ai eu un parcours avec des pilules, j'ai eu un parcours avec de la chirurgie, avec la célioscopie, j'ai eu du décapeptyle pendant 2 ans. Donc 2 ans, c'est très très long, normalement c'est pas du tout préconisé. Et puis ça allait plus ou moins bien avec des douleurs toujours présentes. La question qui s'est posée à moi, c'était de me dire comment est-ce que j'avais pu me laisser aller comme ça sans écouter les signes de mon corps. Et donc, pendant cette convalescence, eh ben, j'ai fait une formation de sophrologue, ce qui m'a permis de pouvoir vraiment faire un lien entre mes douleurs et puis ce que je pouvais ressentir, essayer de les gérer. Mmh. L'idée, c'était de pouvoir gérer moi-même ma maladie, puisque, pour être honnête, j'en avais vraiment ras-le-bol du parcours médical, des médicaments, puisque donc des décapeptiles, arthrose, enfin voilà, plein de choses.
Vous avez décidé d'écouter votre corps et de reconnecter avec lui pour éviter de nouvelles douleurs ou des douleurs trop
tout
intenses.
À fait.
Merci beaucoup Sandrine pour votre témoignage et pour ce message très important. Merci à vous également, professeur Pierre-François Sécali. Merci d'être venu pour parler d'endométriose, donc cette maladie gynécologique sur laquelle, on l'a compris, il reste encore beaucoup à apprendre. Merci à vous. Et dans quelques instants, nous allons parler d'un tout autre sujet, un programme français de suivi médical pour des enfants placés, protégés, qui sont particulièrement vulnérables, on va le voir. Mais d'abord, on écoute Roselyne Layo avec Elotonia. Reste avec nous.
Maman Sylvie Layo, ma vie.
Plus de 300 000 enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en France à devoir être protégés parce que leurs besoins n'étaient pas assurés dans leur foyer familial. Et en grandissant, ils ont bien plus de risques que les autres de présenter des problèmes de santé et de développement. Bonjour docteur Daniel Rousseau.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes pédopsychiatre et vous avez lancé avec votre équipe l'expérimentation Pégase, le premier programme de santé publique expérimental dédié aux enfants dits protégés, donc des enfants qui bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance, donc c'est-à-dire qui sont placés en foyer, dans une famille d'accueil ou qui ont un suivi à domicile. Et ces enfants, avant d'être placés, ont pu vivre des maltraitances, la séparation aussi avec les parents. Ils sont particulièrement vulnérables en tout cas.
Tout à fait. Ils cumulent des vulnérabilités à la fois de leur histoire médicale, parce que certains ont été prématurés, de leur histoire familiale avec parfois des négligences ou des maltraitances très graves. Pas toujours, mais ça arrive. Et puis ensuite, ils sont séparés, ils vivent parfois en collectivité, mais ils ne vivent plus dans leur famille. Et ils ont des problèmes de santé à suivre dans le long terme. Et donc, ils cumulent tous ces risques qui entravent leur devenir.
Et en fait, on peut prévenir les séquelles de tous ces traumatismes. Quel a été justement le point de départ de votre expérimentation ?
Alors, le point de départ était une recherche scientifique qu'on a menée pendant 10 ans sur une cohorte de 129 enfants qu'on a suivi de avant 4 ans, le moment où ils ont été placés, jusqu'après leur majorité. Et on s'est aperçu que dans cette cohorte, il y en a un quart qui ont un bon devenir, qui arrivent à l'âge adulte sans trouble particulier. Donc, c'est quand même encourageant puisque ça montre que la protection de l'enfance, ça peut marcher. Mais à l'opposé, on a un autre quart qui sont des enfants qui deviennent des adultes inadaptés sociaux. Ils sont soit en prison, soit à l'hôpital psychiatrique, soit dans la rue, soit dans qu'ils ne travaillent pas. Et donc, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait un devenir aussi disparate. Mmh. Et on s'est aperçu à ce moment-là que finalement, ceux qui avaient bénéficié d'un protocole de suivi de santé très précoce, non pas pour des raisons sociales, mais pour des raisons sanitaires, parce qu'ils avaient été prématurés, eh bien, ont eu un devenir bien meilleur que les autres, sur le plan humain, et ont aussi coûté bien moins cher, parce qu'ils ont consommé moins de santé.
Et donc, vous avez mis au point cette expérimentation qui est en fait un programme de soins à destination de 2500 enfants placés dans 15 pouponnières. Donc, les pouponnières, ce sont des lieux qui accueillent des enfants en bas âge. Alors, quels soins, justement, sont proposés à ces enfants? En quoi consiste leur suivi?
Alors, premièrement, déjà, de respecter la loi, c'est-à-dire de respecter les examens obligatoires de l'enfant. Beaucoup de ces enfants, avant, n'avaient pas les examens dans le rythme qui était proposé par le carnet de santé, par exemple. La deuxième chose, c'est d'introduire des nouvelles notions qui sont des échelles et des nouveaux outils, qui sont des échelles de développement en continu, qui sont renseignées par les familles d'accueil ou par les professionnels des pouponnières. Et puis, ensuite, des soins qui ne sont pas offerts en droit commun, à savoir psychomotricité ou soins psychologiques, de façon très très précoce, ce qui permet d'intervenir à un enfant qui arrive dans le mois qui vient, il a une prise en charge, alors qu'autrement dans le droit commun, par un CAMS, un CMPP ou un service de pédopsychiatrie, ça prendrait des mois, voire des années.
Et il s'agit notamment de pouvoir repérer peut-être plus rapidement des troubles psychiques qui pourraient survenir chez ces enfants?
Alors, c'est vrai que le risque psychique pour ces enfants, c'est le risque le plus important, puisqu'on considère que plus des deux tiers d'entre eux, à l'adolescence ou à l'âge adulte, auront encore des souffrances psychiques. Et donc, on peut essayer d'intervenir très tôt. Nous, on a des échelles qui sont donc appliquées très simplement, c'est des échelles observationnelles, par les familles d'accueil ou les auxiliaires de puériculture, et qui permettent de faire des bilans très réguliers dès l'âge d'un mois. Hein, c'est assez rare.
C'est très tôt. Et c'est jusqu'à l'âge de 7 ans que vous proposez ce sujet.
Jusqu'à l'âge de 7 ans, oui.
Alors, quel message vous voulez faire passer, vous, sur ce sujet des enfants placés et de leur santé, docteur Daniel Rousseau?
Eh bien, que vu les risques, vu le coût pour la société, vu le coût humain que ça représente, vu leur nombre grandissant, et ça, ce n'est pas un problème français, c'est un problème international. On voit dans tous les pays développés le nombre de bébés placés qui augmente, parce que sans doute on a une meilleure attention aux bébés. Eh bien, il faut mettre des programmes. Nous ne sommes pas les seuls sur le plan international. Il y en a un à Pittsburgh, il y en a un qui va arriver en Irlande, en Angleterre, il se pose la question. Des programmes de prévention très précoce, de prise en charge, et d'une prise en charge qui soit vraiment experte avec une observation très fine et des interventions très tôt. Et avec ces moyens, on peut espérer modifier leur destin.
Merci. Merci beaucoup à vous, Daniel Rousseau. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et coordinateur de cette expérimentation Pégase. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. Merci pour vos appels et vos messages. Merci à toute l'équipe en coulisses. Damien Roucou, Louise Kalédek, Talim Pouhaud, Valentine Lemaire, Tom Malky, Didier Bleu à la réalisation et Oscar Jouxtel aujourd'hui. Demain, question de femmes. Comme chaque vendredi, nous abordons un sujet de santé au féminin. Et demain, comment bien communiquer en famille, apprendre à s'écouter entre parents, enfants, frères et sœurs. On en parle demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.